Kiosque Magazine.
Alors, bonjour à tous en ce mardi 27 janvier. Ben, comme à notre bonne habitude, je crois, on vous parle de voyage, de nature, de science. Bonjour André-Étienne.
Bonjour Michel Odette.
Pas trop froid ce matin?
Ah, complètement congelé.
Ouais, il y avait un petit vent assez frisquet.
Petit, hein? C'est un euphémisme.
Mais, peu de neige. Si on se compare à la New York et toute la côte,
hein, vrai,
apparemment,
vrai,
ça va être vraiment quelque chose aujourd'hui. André-Étienne, de quoi vous nous parlez aujourd'hui?
Alors, différents sujets, bien sûr. D'abord, des rouleaux carbonisés par le Vésuve.
Ah oui?
Et leur possible lecture.
Ah, ça serait intéressant.
Oui. Ensuite, je vais vous parler de la météo en 2050. Ça nous concerne tous, la météo?
Ah, c'est très proche.
Ben, c'est ça, très, très proche. Et puis aussi de deux autres articles, l'un qui concerne une technique tout à fait récente qui s'appelle un pavage unique au monde.
On en a besoin ici au Québec.
On en a besoin particulièrement. Puis vous verrez qu'il a vraiment des propriétés tout à fait surprenantes.
Oui.
Et aussi des baleines à bosse et d'un article qui s'appelle « I believe I can fly ».
Oh!
Une baleine à bosse de 40 tonnes. Hein?
Oui.
On parle de ça. D'accord?
De mon côté, je vous amène visiter un endroit assez particulier qui s'appelle Lagos, au Nigeria. Bon, on en a entendu parler abondamment pour des raisons plutôt tristes, mais vous allez voir que c'est une ville quand même assez extraordinaire, en expansion, vraiment. Et des éleveurs de chiens, à qui doit-on se fier pour acheter un chiot ou un chat?
Ouais.
L'homme de Néandertal, il était peut-être pas si bête qu'on pense, l'homme de Néandertal.
Ben, on n'a jamais pensé qu'ils étaient bêtes. On descend d'eux, alors on n'est pas bêtes.
On s'est peut-être un peu amélioré. Hein?
Un petit peu. Eh bien, donc, je vous le disais, l'article dont je veux vous faire part s'intitule textuellement, des rouleaux carbonisés par le Vésuve qui pourraient être lus à nouveau. C'est publié dans la presse du 20 janvier 2015, signé Pascal Mollard-Chenebois, de l'agence France Presse à Paris. Je vous avoue qu'après l'avoir lu, j'avais envie de l'intituler un petit peu différemment, à savoir l'épopée de la lecture des rouleaux d'Herculanum. Alors, je vous raconte l'histoire. Bon, imaginez, nous sommes en 79 après Jésus-Christ. Ça vous dit probablement rien, mais à cette époque, et au mois de mars, je crois, le Vésuve explose, se réveille et ensevelit sous les cendres la ville de Pompéi. À proximité, il y a une autre ville qui s'appelle Herculanum. Maintenant, elle ne s'appelle plus Herculanum, elle s'appelle Herculano. Et elle est frappée exactement ce qu'ils disent, par une nuée ardente dont le souffle chaud carbonise la majorité des matériaux fragiles comme le bois, les cuirs ou les rouleaux de papyrus. Maintenant, donc, on se transporte en 1750. Donc, il se passe à peu près rien entre 79 et 1750, où des fouilles archéologiques permettent, à l'occasion du creusement d'un puits, de découvrir à quelques kilomètres d'Herculanum, donc la ville dont on parlait à côté de Pompéi, une villa qu'on a appelée la villa des papyrus et qui aurait été la résidence secondaire du beau-père de Jules César.
C'est
quelque chose,
ça.
Jules César. Hein?
Ah, oui.
Donc ça veut dire qu'il ne va pas y avoir rien du tout là-dedans. Il va y avoir des choses importantes historiquement, n'est-ce pas? Donc la villa en question a été épargnée et elle contient une véritable bibliothèque puisque ce sont 1800 rouleaux de papyrus qui sont rangés tranquillement sur deux étagères. Alors évidemment, ça attise la curiosité des archéologues, vous imaginez bien. Ils tentent de les ouvrir mécaniquement, d'abord en les déployant très doucement. Puis quand je dis très doucement, c'est pas une blague.
Oui.
Parce que, écoutez bien, ils déploient par jour les rouleaux en question de 1 cm.
Ben, j'admire la patience des archéologues.
Ah oui, je pense que pour faire ce métier-là, il faut vraiment être patient.
C'est vraiment incroyable.
Incroyable. Un centimètre par jour... Ça fait quand même pas beaucoup. Donc, d'accord. Alors, cela occasionne des dégâts majeurs, évidemment, mais permet quand même de découvrir des textes importants. Bon, là, finalement, on laisse tomber tout ça, puisqu'on se rend compte qu'on n'a pas la technologie, ni les connaissances, ni les moyens pour faire quoi que ce soit. On arrive maintenant donc aux années 70-80, ce qui fait à peu près 260 ans plus tard. Et une nouvelle méthode est utilisée qu'on appelle la méthode d'Oslo et qu'on expérimente seulement sur deux rouleaux. Bon, cette technique-là, elle utilise un produit gélatineux qui serait supposé décoller les différentes couches, je raconte un scientifique. Mais la technique, finalement, n'est pas exactement au point. Ça ne fonctionne pas et les deux rouleaux explosent.
Et je vous rappelle qu'on a découvert 1800 rouleaux. Hein.
Voilà, on en a 1800.
On est rendu au deuxième.
Ce n'est pas encore trop grave. On espère que ce ne sont pas les informations les plus importantes qui étaient rapportées dans ces rouleaux-là. Au cours des dernières décennies, il y a différentes technologies d'imagerie qui sont mises en œuvre pour tenter de lire les papyrus en question. Mais là encore, on n'a pas de résultat. Et ce n'est que récemment que des chercheurs ont mis au point une nouvelle méthode qui est publiée dans la très sérieuse revue Nature Communication.
Alors, quelle est cette méthode?
Ah, je titille votre curiosité! D'accord. Alors, d'abord, ils ont essayé la méthode qu'on connaissait à ce moment-là, on parle des années 70-80, les rayons X. Mais ils se sont aperçus en fait que l'encre utilisée, elle a pratiquement la même densité que le papyrus. C'était une encre qui était fabriquée à partir de matériaux trouvés sur place. Donc, comme l'encre a la même densité que le papyrus, on ne peut pas, avec les rayons X, distinguer quoi que ce soit. Raté encore une fois. Maintenant, et pour répondre à votre question, Michel, on utilise une nouvelle technologie qui s'appelle la tomographie X, en contraste de phase. Bon, je vous avoue que j'ai essayé de regarder sur Internet pour vous expliquer un peu plus en détail la technologie en question. J'ai un petit peu abandonné, ne m'en veuillez pas. Mais elle n'est pas expliquée non plus dans l'article, alors je n'ai pas trop de culpabilité. Donc, cette technologie, elle permet quand même de mieux percevoir la différence entre l'encre et le papier papyrus. Puisqu'avec cette technique, donc, les lettres présentent à ce moment-là un léger relief. Bon, donc c'est par cette technologie que les chercheurs sont parvenus à déchiffrer des mots ainsi que plusieurs lettres à l'intérieur des rouleaux sans les endommager. Pour le moment, le but des chercheurs était prioritairement de montrer que la technique a marché pour lire à l'intérieur des papyrus sans y toucher. À présent, ils reconnaissent qu'ils doivent peaufiner la technique et les algorithmes. Alors, il y a d'autres expériences qui sont prévues pour le printemps, et donc c'est à suivre.
Mais ça doit être quand même coûteux. Il y a des fonds qui sont investis dans ça.
Évidemment, c'est toujours le nerf de la guerre,
c'est ça.
Et c'est toujours le même problème. Alors, ce qu'ils écrivent, c'est assez rigolo, parce qu'ils disent, et je vous lis textuellement, quasiment, ça a été un travail de soir pour faire l'analyse dure et complexe des données. Bon, donc maintenant, les chercheurs espèrent un financement, lequel? Mais ce qu'ils précisent, ils disent quand même que si les moyens sont réunis, il faudra une décennie pour faire la lecture des rouleaux. Il en reste quand même encore 700 à 800 qui sont non déroulés, plus d'autres qui sont en partie ouverts.
Mais on a amélioré la technique du 1 cm par jour.
Exactement.
Parce qu'autrement, on en aurait pour...
Exactement. C'est pour ça qu'ils considèrent ça comme une découverte. Alors voilà, c'était cet article de la presse du 20 janvier 2015.
Alors, je vous parle de Lagos, qu'on a surnommé la Big Apple de l'Afrique. Vous verrez un petit peu pourquoi. C'est l'ancienne capitale fédérale du Nigeria. C'est pas la capitale, Lagos. La capitale, c'est Abuja. Et ça connaît une urbanisation, une croissance économique parmi les plus rapides de la planète. Hein. Elle est en train de devenir, on l'a surnommé la Big Apple de l'Afrique, parce que c'est pas pour rien. C'est quand même une ville de 20 000 habitants. Hein. Et, à plusieurs reprises durant la dernière année, on le sait, le Nigeria a tristement fait la manchette à cause du virus d'Ebola, particulièrement, qui sévit. Et bien sûr, le groupe terroriste Boko Haram, qui a suscité la consternation et continue à susciter la consternation au sein de la communauté internationale, particulièrement avec l'enlèvement de masse, celui d'un groupe de 200 jeunes filles. Je pense qu'on, tristement, on s'en souviendra. Ouais. Mais au-delà de ces crimes horribles, le pays le plus populeux d'Afrique avait près de 180 millions d'habitants. Hein. Et c'est devenu une démocratie en 1999. Par rapport à l'Afrique, oui. Et en avril dernier, à la suite d'une révision du calcul statistique, le premier producteur de pétrole africain, qui est le Nigeria, a vu son produit intérieur brut dépasser celui de l'Afrique du Sud.
Ah oui?
Et c'est pas peu dire. Hein?
Non, ça peut pas dire.
Et c'est la plus grande économie du continent. Ah, donc, il y a d'autres raisons de parler du Nigeria que des tristes nouvelles qu'on a eues jusqu'à maintenant. La prospérité du Nigeria passe en grande partie par Lagos, qui, bien qu'elle ait vu son titre de capitale fédérale cédé à Abuja, en 1991, en fait, demeure dans les faits la capitale économique et financière. Le dynamisme exceptionnel de cette ville est notamment alimenté par des entreprises nigérianes du secteur privé qui, comme les banques, ont presque tout un pied à terre. La vitalité économique de Lagos s'explique aussi par deux marchés littéralement en explosion depuis les années 1990. Et ces marchés-là, c'est les télécommunications. Et une chose qui va vous surprendre, c'est on appelle Nollywood, son industrie cinématographique. On ne pourrait pas penser ça. Hein?
Non.
C'est vraiment une surprise pour moi.
Oui,
c'est le deuxième en importance dans le monde.
Ah oui?
Et on pourrait penser que le premier, c'est Hollywood. Mais non.
C'est Montréal.
C'est... Je n'attendais pas ça. Non, le premier, c'est Bollywood. Bollywood, qui est l'industrie cinématographique de l'Inde, qui est extraordinaire. Donc, la deuxième, hein, ça, c'est, pour moi, c'est une grande surprise. Nombreux sont les investisseurs, les entreprises de l'étranger qui commencent à considérer le plus grand port du pays, et l'un des plus importants d'Afrique, comme un endroit incontournable pour y brasser des affaires et s'y implanter. Lagos est déjà une plaque tournante importante pour plusieurs entreprises canadiennes, d'ailleurs, et qui bénéficient d'occasions d'affaires à travers le pays, lequel est un des principaux partenaires commerciaux du Canada en Afrique.
Dans quel secteur particulièrement?
Dans les secteurs, étonnamment, pour moi en tout cas, de l'aéronautique, de l'énergie, éducation. Aussi, on a des échanges en termes d'éducation et du transport. C'est perçu comme un véritable Eldorado. Lagos verrait 6 000 nouveaux arrivants débarquer chez elle chaque jour.
Ah oui?
Pour profiter du bouillonnement économique. Mais, évidemment, cette migration massive et incessante n'est pas sans conséquence pour la ville. Celle-ci, qui compterait déjà plus de 20 000 habitants, ça peut être plus parce que le dernier recensement remonte à 2006. Et on nous dit qu'il y a 6 000 arrivants par jour. Donc, ne dispose pas d'infrastructures adéquates pour supporter un changement aussi brutal, aussi brusque. Elle manque, par exemple, d'espace de logement, si bien qu'elle s'étend dans la lagune où des bidonvilles ont été construits sur des pilotis.
Ah oui?
Oui, parce que Lagos est constitué de différentes îles et relié par des ponts. Okay. Et ça souffre également d'embouteillages monstres. Pire qu'à Montréal, apparemment.
Ouais, bon, c'est pas
embouteillages monstres.
Est-ce qu'il y a d'autres encore, des problèmes?
Et chaque jour, ça retient prisonniers pendant des heures des milliers de Lagosiens qui se rendent au travail. Et ajoutez à cela le manque d'accès à l'eau potable, les coupures d'électricité fréquentes, la pollution, la pauvreté, la criminalité, et vous obtenez une agglomération totalement désordonnée. Mais on nous dit que c'est en cours de changement. Et ça, c'est particulièrement dû au leitmotiv de monsieur qui s'appelle Babu Tunde Fakola, qui est gouverneur de l'État de Lagos, et depuis son arrivée au pouvoir en 2007. Voyant son potentiel économique et désireux d'offrir une meilleure qualité de vie à ses citoyens, l'homme, qui est reconnu comme étant proactif, a déployé de grands moyens dans les dernières années pour tenter de faire oublier la réputation d'une ville insalubre, dangereuse, chaotique, que, évidemment, la réputation que traîne Lagos. Important de mentionner, parce qu'on parlait au début de l'Ebola et Boko Haram, le 22 septembre 2014, donc c'est tout à fait récent, l'Organisation mondiale de la santé a confirmé que l'épidémie d'Ebola avait été maîtrisée.
Oh, oui.
Ben oui, tout à fait. On entend parler encore, mais moins au Nigeria. Mais évidemment, il n'est pas question de relâchement. On doit être encore très, très, très vigilant. Donc, il y a encore beaucoup à dire sur Lagos, qui est une ville absolument dans un déploiement actuellement un peu chaotique. Mais on voit qu'il y a quand même de nombreux pays qui y viennent. Et c'est quand même une ville intéressante sur le plan du développement. Donc, c'était par Marie-Ève K. Desjardins dans Inspiro Média.
Bon, eh bien, de cette musique très rythmée, on va passer à quelque chose de très terre-à-terre, le pavage unique au monde qui purifie l'air. C'est quelque chose, hein? C'est un article de Science Magazine de janvier 2015 et il n'y a pas d'auteur. Alors, ils indiquent que c'est vraiment une véritable révolution en matière de revêtement urbain. Parce que les dalles en question sont certifiées pour leurs propriétés dépolluantes, auto-nettoyantes, purifiant l'air des villes en réduisant jusqu'à 80% des gaz polluants.
Oh,
on rêve, hein?
Bonne nouvelle!
Oui, on rêve, hein? Bon, il faut savoir, par exemple, quand même qu'en France, pas spécifiquement, il y a 42 000 décès par an qui sont liés à la pollution atmosphérique. Alors, imaginez un peu l'impact de ce nouveau procédé qui apparaît comme une innovation décisive. Alors d'abord, dont la dalle, elle se présente en béton, haute résistance, qui est composée d'agrégats de granit, de silice ou de basalte, et qui contient quand même en plus 30% de matériaux recyclés. Alors la couche supérieure intègre un puissant catalyseur qui s'active en présence de la lumière naturelle et artificielle et qui fonctionne avec un procédé d'oxydation naturelle qui ressemble à la photosynthèse des plantes. Extraordinaire, n'est-ce pas? Donc, ce catalyseur, il va transformer les gaz polluants, l'oxyde d'azote, les autres particules fines, en produits non toxiques pour la santé humaine et sans impact sur l'environnement. Les capacités de dépollution de ces dalles sont telles que si la surface d'un terrain de football était recouverte de ces dalles, on pourrait éliminer la pollution générée par plus de 4000 véhicules par an.
C'est fort impressionnant.
C'est impressionnant,
oui,
hein?
Oui, tout à fait.
Je trouve que franchement, moi j'aime ça, là, quand je vois des choses qui sont découvertes et puis qui vont nous aider à limiter un peu les problèmes d'effet de serre et autres, ou de pollution respiratoire. Donc ça fait quand même 5 ans que les chercheurs se sont mis là-dessus pour trouver ce développement, pour effectuer ce développement. À l'heure actuelle, c'est quand même le premier et le seul revêtement au monde capable d'éliminer significativement les gaz polluants qui sont émis par la circulation et les voitures. Et il y a diverses études en laboratoire qui montrent une efficacité donc allant jusqu'à 80% dans la dégradation de l'oxyde d'azote. Alors, ce qui est quand même intéressant aussi, pour le printemps, là, quand il faut nettoyer les espaces de stationnement, c'est que ces dalles repoussent la saleté et permet ainsi de conserver les qualités esthétiques sans besoin d'intervention particulière. On est content, non?
Est-ce qu'elle élimine les nids de poules?
Ah, les nids de poules, ça, c'est un autre problème. Mmh. Je ne sais pas. Ils n'en parlent pas, en tout cas, pour le moment. Bon, donc, les taches qui sont de graisse, les taches d'huile, elles s'estompent toutes seules avec le temps et elles disparaissent complètement en 2 ou 3 mois. C'est merveilleux, non?
Ben oui.
Donc voilà, c'était cette innovation technologique.
La grande question, combien ça coûte?
Ah ben là, ils n'en parlent pas, par exemple.
Ah, voilà. Parce que c'est toujours le grand problème, hein, parce qu'on peut faire des découvertes extraordinaires, mais ça coûte...
Oui. Ben écoutez, je ne sais pas. Je sais pas si je vous reviendrai là-dessus, mais je vais faire des recherches là-dessus, parce que bien. Je trouve qu'effectivement, c'est le nerf de la guerre. Spread my wings and fly away. I believe I can soar. I see me running through that open door. I believe I can fly. I believe I can fly. I believe I can fly. Ben merci beaucoup, Jean-Sébastien, parce que franchement, trouver une autre liaison plus adaptée que celle-là, il n'y en avait pas. Franchement, c'est vraiment génial.
C'est dépassé ce matin.
Là, c'est absolument dépassé parce que j'étais un peu confuse, mais c'est un titre qui est en anglais, donc « I believe I can fly ». Alors, donc, savez-vous de ce dont il s'agit? Une baleine à bosse de 40 tonnes qui se paye un vol plané. Alors c'est complètement incroyable. On n'en voit pas à Tadoussac, hein. Je ne pense pas qu'on en parle. Par contre, ce sont des exploits qui sont réalisés par des baleines à bosse qu'on retrouve au large des côtes de Madagascar ou en Nouvelle-Calédonie. Bon, imaginez la puissance qu'il faut pour arriver à sortir de l'eau 40 tonnes. Alors ça, c'est dû aux muscles de leurs énormes nageoires qui se cachent donc dans la queue de l'animal. Et il faut savoir quand même que la nageoire en question, elle peut atteindre 4 mètres de long. Mais enfin, pour soulever 40 tonnes, il faut avoir une nageoire caudale de 40 mètres.
Une propulsion extraordinaire.
Incroyable. Et avec ce propulseur, la baleine peut filer sous l'eau à 30 km à l'heure et percer la surface de l'eau comme une torpille pour jouer les cétacés volants. Alors, bon, évidemment, on se pose la question, pourquoi elle se fatigue à faire des cabrioles aériennes aussi spectaculaires? Peut-être pas pour éblouir les touristes, mais par contre, les scientifiques avancent plusieurs raisons. Alors, la première, c'est assez simple à comprendre, c'est de la frime. Mais c'est de la frime pourquoi? Pour séduire les femelles. Pendant la période de reproduction, les mâles, comme dans beaucoup d'autres domaines aussi, se livrent une compétition forcenée.
Et qu'est-ce qu'on peut faire pour séduire les femelles?
N'est-ce pas? Vous imaginez 40 tonnes hors de l'eau.
Oui.
Bon, et justement, ce qu'ils veulent faire, c'est qu'ils veulent intimider les rivaux. Et il y a même des chocs entre les individus quand ils font la, ils s'éblouissent l'un l'autre. Et pour les spécialistes, le plouf, qui est assez extraordinaire, provoqué par la retombée dans l'eau, permet au mâle de manifester sa présence et de dire « je suis très gros, je suis très fort ».
Et très puissant,
mais
c'est
très
ça.
Puissant.
Voilà.
Bon, ça c'est la première hypothèse. Autre hypothèse, les sauts permettraient à la baleine à bosse de se débarrasser des parasites présents sur sa peau. Parce qu'il faut quand même le dire, ça c'est vrai, toute une population d'organismes a élu domicile sur leur corps. Alors on cite des chapeaux chinois, ce sont des coquillages qu'on trouve aussi sur les rochers, ou encore des petits poissons carnivores qui sont ventousés par la bouche au dos du cétacé. Et là donc, la force de l'impact avec la surface de l'eau pourrait être suffisante pour envoyer balader tous ces gêneurs qu'elle a sur le corps.
Ah, c'est intéressant comme hypothèse.
C'est intéressant, hein?
Oui.
Ben, vous allez voir aussi la dernière hypothèse qui est suggérée, c'est que le vol plané en question pourrait être aussi une méthode de chasse. Bon, habituellement, les baleines à bosse sont assez fins stratèges et puis elles sont capables de piéger des bancs entiers de poissons en formant, tenez-vous bien, autour des murs de bulles. Mais là, elles optent donc parfois par une approche qui est plus brutale avec ces sauts, puisque l'onde de choc propagée dans l'eau par la chute de ces 40 tonnes suffirait à assommer tout un banc de harengs. Alors donc, les petits poissons en question, qui pèsent juste 160 grammes tout mouillés,
ouais.
Ils sont complètement assommés, et du coup, ils se laissent gober sans résistance.
Oh, c'était les trois hypothèses.
C'était les trois
réunies,
hypothèses.
Réunies peut-être.
Réunies peut-être. Peut-être qu'elles ont toutes une véracité, c'est possible.
Oui.
Alors, c'était un article...
Et vous savez, juste pour terminer, vous savez que les baleines à bosse enseignent à leurs petits, et ça a été démontré, comment faire ce stratagème.
Ah oui?
Oui.
Moi, je n'avais jamais entendu parler de ça.
Oui,
je suis allée à Tadoussac
on a,
pour
on
essayer
a
de voir les baleines.
On a observé les baleines et on s'est rendu compte qu'il y avait une méthode d'enseignement à leurs petits pour réussir à faire la même chose.
Ah oui?
Oui.
Mais juste les sauts vol plané, là,
ah oui,
ou d'autres choses?
Des vols planés, particulièrement.
Ah, ben, merci beaucoup. Donc ça, c'était un article d'Alexandre Roupioz qui était extrait de la revue Science et Vie du mois de décembre 2014. Bon, alors juste une petit rappel, une information. Les souris envahissent les maisons du Québec. C'est pas drôle, hein, comme information.
Non, c'est
pas
drôle.
Je suis pas très optimiste.
C'est pas parce qu'on rit que c'est drôle.
Non, non. Les souris sont nombreuses cette année à migrer vers l'intérieur des maisons pour s'abriter du froid, on voit aujourd'hui, trouver de la nourriture, à se mettre sous la dent. Alors là, bon, ben évidemment, les petits rongeurs arrivent à s'infiltrer de plusieurs façons dans une maison, les conduits d'aération, les fissures dans les fondations et les portes ou les fenêtres mal calfeutrées. Alors voilà, si vous avez des souris chez vous,
bonne chance.
Souriez.
Souriez.
Vous écoutez Kiosque Magazine.
Alors.
Bravo Jean-Sébastien.
Alors, éleveur de chiens, Stéphanie Vallet nous en parle et ça a été repiqué sur Gmail. Bon, vous êtes à la recherche de compagnons à quatre pattes, mais vous ne savez pas où trouver le chiot ou le chaton de vos rêves. Alors, pourquoi ne pas commencer par faire un tour dans un refuge près de chez vous? Ben, peut-être que vous allez trouver l'âme sœur, ce que vous voulez. Si toutefois vous optez pour un éleveur, sachez qu'il est possible de tomber sur le meilleur, mais aussi sur le pire. Et tout est une question d'information. Alors, voici quelques astuces pour faire le bon choix. Et ce n'est pas mes astuces à moi, c'est la présidente des cliniques Anima Plus.
Bon, d'accord.
Qui vous en parle.
D'accord.
Je suis nullement un spécialiste dans ce domaine.
Le passeur d'informations.
Oui, tout à fait. J'aimerais beaucoup avoir un animal, mais oh, je pense que je quitte le...
Vous voyagez trop, Michel.
Un peu trop. Voilà, c'est tout à fait ça. Alors, que vous désiriez adopter un chiot ou un chaton, vous devez tout d'abord vous demander si vous voulez ou non un animal de race. Si c'est le cas, la seule option sera de vous adresser à un éleveur appartenant au Club canin canadien ou à l'Association féline canadienne. Ça peut être quand même une espèce de garantie, de protection. Un choix qui a bien évidemment un prix, mais qui va vous assurer de la pureté du spécimen que vous allez choisir. Ce qui signifie qu'il va être enregistré et qu'il va avoir tous les certificats de santé.
Okay.
Ce qui est fondamental.
Ben oui, ben oui.
Ces éleveurs vont vous fournir tous les papiers de garantie de santé. Les antécédents génétiques aussi qui sont très importants parce qu'il y a des maladies ou des défectuosités chez les animaux. On parle de la dysplasie de la hanche, par exemple, ou du coude, chez des races en particulier. Très souvent, ces éleveurs vont chercher des animaux provenant d'autres pays pour la reproduction pour éviter les problèmes liés à la consanguinité.
Ah, d'accord. Alors,
chez les chats de race, tout particulièrement, on nous parle du Bengale, pas du tout particulier les chats, le chat, le Bengale, que je connais pas, l'Abyssin, peut-être que vous connaissez.
On nous dit de faire attention,
ils ont des parasites, des protozoaires, qui vivent dans le système digestif du chat et qui se transmettent au cours des contacts avec la mère.
Ah oui.
Alors, une fois que l'animal a ça, on nous dit qu'il est presque impossible de s'en débarrasser.
Ce sont des parts génétiques coûteuses, n'est-ce pas?
Tout à fait.
Oui.
Je me souviens avoir entendu des gens autour de moi parler de, par exemple, de la hanche, des problèmes de hanche prématurés. Donc, il existe une certification pour garantir que les chatons n'en sont pas atteints. Il y a un bémol aux races pures.
Qu'est-ce que c'est?
Ils ont souvent tendance à avoir une santé plus fragile que celle des races dites mélangées, les bâtards, si vous voulez, qui courent un peu partout, donc qui sont d'une certaine façon davantage
immunisés. Ils sont mieux entraînés pour résister.
Mais ce qui n'empêche pas, bien entendu, les tares génétiques qui doivent être étroitement surveillées. Les éleveurs n'appartenant pas à une association, qu'on a mentionné tout à l'heure, canadienne, ne sont pas pour autant négligés, car ils peuvent aussi bien fournir à leurs clients des papiers d'antécédents génétiques. Ça, c'est fondamental.
Oui, parce que...
Il existe des certifications des hanches, par exemple, faites par des vétérinaires grâce à des radiographies et à des tests qui, on nous dit, sont une bonne garantie. Les dossiers médicaux des trois dernières générations peuvent aussi être demandés à ces éleveurs qui ne sont pas nécessairement partis de l'association.
Et donc, ça doit coûter une fortune d'acheter un chien avec un pédigré de trois générations.
Si on veut y mettre le prix, si on veut le garder pour un certain temps.
Ouais.
Mais s'ils ne veulent pas vous montrer ces dossiers-là, ce n'est pas normal. Ils doivent les posséder.
Si on veut un chien de race.
Pas nécessairement. Ça peut être aussi un chien qui a été examiné, on connaît la génétique au préalable. Faites appel à votre bon sens, à votre instinct.
Ouais.
Évitez à tout prix les animaleries ou les petites annonces sur Internet. On a vu des histoires d'horreur récemment dans des usines à chiots. Ces endroits qui ne peuvent vous fournir toutes les informations nécessaires pour vous assurer de la provenance de votre futur petit compagnon. Ne pas se fier à simplement à la parole. Hein.
Ouais.
Ah, il y avait des antécédents extraordinaires.
Ben ouais,
sa mère avait gagné des concours. Est-ce que vous pouvez me prouver? Les usines à chiots garantissent que votre animal aura de graves problèmes de socialisation et de comportement, ainsi que de lourdes tares génétiques.
Usine à chiots.
Exactement. Usine à chiots, on en a vu des histoires épouvantables aux nouvelles récemment.
Bon, visitez.
Alors, voilà ce qu'il faut surveiller particulièrement. S'assurer que les trois dernières générations de l'animal ne sont pas liées par le sang,
Pas de consanguinité.
C'est ça. Et qu'elles n'ont pas de tare génétique. Un bon éleveur doit pouvoir vous montrer les papiers. Ça, c'est fondamental. Deuxième chose, vous devez avoir accès à l'endroit où les chiens vivent. Si l'éleveur vous dit que c'est trop stressant pour les animaux, que ce n'est pas possible, que c'est louche et c'est faux. Par exemple, ils ont des femelles en train d'allaiter, elles devraient être dans une pièce à part. Autre chose, l'éleveur doit vous fournir les papiers qui certifient que l'animal a reçu au moins un vaccin et qu'il a été traité contre les vers. On donne un vermifuge toutes les deux semaines au cours des trois premiers mois. Autre chose, le meilleur moment pour adopter, c'est vers l'heure de trois ou quatre mois. Environ,
okay.
Très tôt.
Mais ça veut dire qu'à ce moment-là, ils ont reçu plusieurs vaccins déjà?
Au moins un,
vermifuge.
On le dit. Et l'élevage, évidemment, doit être propre. Les animaux ne doivent pas être en cage toute la journée. Et les chiots et les chatons, c'est important qu'ils socialisent. Alors, dans le cas d'éleveurs familiaux, ils sont élevés avec les enfants dans la maison, par exemple. Mm-hmm. Ça donne des petits compagnons, déjà propres souvent, sociables et pas peureux. Et renseignez-vous aussi sur le type d'alimentation utilisée par l'éleveur, parce qu'il y a certains types d'alimentation qui ne sont vraiment pas à recommander. Alors, voilà quelques conseils. Ça nous provenait particulièrement aussi en référence au ministère de l'Agriculture, de Pêcherie, de l'Alimentation, le MAPAC. Et c'était Stéphanie Vallet qui nous en parlait.
Bon, eh bien, on dirait que je passe d'un extrême à l'autre. Je vous parlais des papyrus de l'an 79. Maintenant, je vais vous parler de la météo. C'est d'actualité, ça nous concerne tous.
Ah oui.
En 2050. Oh. Alors, quoi s'attend ? C'est évidemment un temps plus chaud, des sécheresses, des hivers sans neige. Mais peut-être que ça vaut le coup de penser à nous y préparer. Ça nous concerne tous, puisque ça va bouleverser nos habitudes.
Est-ce qu'on peut vraiment prévoir le climat autant à l'avance?
Bonne question.
Quand on ne peut pas prévoir pour deux jours,
exactement.
Ça m'inquiète.
C'est exactement. Bon, je vais vous répondre en disant que oui, on peut le faire dans les grandes lignes. On parle des grandes lignes, hein, parce que c'est vrai que les climatologues sont quelquefois même pas fichus de nous dire dans 10 jours quelle température il va faire.
Oui.
Bon, par contre, donc, les experts sont vraiment capables d'évaluer ce que seront les grandes tendances saisonnières, comme les températures moyennes, les niveaux de précipitation, sur des périodes de 20 à 30 ans. On peut parler, par exemple, entre 2030 et 2050. Et pour faire ça, ils utilisent des modèles de programmes informatiques, merci technologie, qui simulent les mouvements de l'atmosphère et les courants marins à partir de données enregistrées sur toute la surface du globe. Et ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, si on entre les paramètres climatiques de 1960 à 2010, c'est ce qu'on a vécu, les résultats s'avèrent assez proches de ce qui s'est passé réellement. Donc, on peut, a priori, faire assez confiance à cet exercice de projection dans l'avenir. Et si on s'intéresse au climat du futur, c'est parce qu'on sait qu'il va changer, là. Je pense que tout le monde l'accepte. Et notre planète est en train de se réchauffer sous l'effet des gaz à effet de serre. Et on veut évaluer les conséquences de ces émissions sur l'impact du climat pour mieux s'y préparer.
Quel temps va-t-il faire dans 40 ans?
Ça m'inquiète. C'est une question pas possible, hein?
Est-ce que je serai là?
Ouais, c'est la question que je me posais aussi. Puis j'avais failli dire en introduction, attendez, je ne sais pas si je serai encore là à ce moment-là, mais ça intéresse, ça concerne tout le monde, nos enfants en particulier.
Oui, tout à fait.
Alors, donc, quel temps fera-t-il dans 40 ans? Nos hivers seront moins froids, nos étés plus chauds, et les températures augmenteraient, disent-ils, de 0,6 à 1,3 degrés Celsius en moyenne par rapport à aujourd'hui. Dans certains cas, ça peut même être 2 degrés. Alors, ça paraît pas très important, mais dans les faits, ça l'est beaucoup. Mais
c'est les conséquences sont très importantes.
Exactement. Il faudra s'y préparer parce que ces épisodes de pluie intense, par exemple, exceptionnels, vont devenir très courants. Et le réchauffement climatique aura un impact sur notre vie quotidienne. Alors, jusqu'en 2050, on peut s'y adapter sans trop de difficultés. Après ça, c'est une autre histoire.
Alors, qu'est-ce qui va changer dans notre vie de tous les jours?
Alors, plusieurs choses. D'abord, ce qui va se passer dans les villes. Les villes, il va y avoir, ils appellent ça des coups de chaud. Et ce sont elles qui vont payer le prix fort des étés caniculaires. Parce que, par exemple, les sols sont goudronnés, les bâtiments ont des murs foncés souvent, ou vitrés, qui absorbent le rayonnement solaire et qui restituent cette énergie pendant la nuit sous forme de chaleur.
Et on aura le nouveau barrage à cette époque-là. Voilà, voilà.
Celui qui se nettoie tout seul et qui absorbe en plus ses impuretés.
Oui, oui, oui.
Mais cet effet, donc cet empêchement de restituer l'énergie de la nuit qui est normalement fraîche, ça va limiter le refroidissement nocturne classique. Donc, pour y penser, pour prévenir peut-être ça, il faudrait mieux isoler les bâtiments et éviter les revêtements qui renvoient la chaleur. Une pénurie d'eau potable, c'est le deuxième point. Il peut y avoir des quantités d'eau qui alimentent les nappes phréatiques qui vont diminuer. Alors, on pourra quand même sortir de cette condition, la limitation d'eau dans les nappes phréatiques, à condition d'arrêter de gaspiller l'eau. Et le mot d'ordre pour l'avenir, c'est chasse au gaspille. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, des sécheresses en grande quantité. Bon, en 2050, on ne s'attend pas forcément à une baisse conséquente, mais les canicules seront plus fréquentes et les hausses des températures vont assécher le sol des cultures. Donc, on aura du mal à compenser la sécheresse du sol des cultures en arrosant davantage, puisque l'eau va nous manquer, on vient d'en parler, avec les nappes phréatiques.
Ouais, c'est un des problèmes fondamentaux, ça.
Exactement.
Le manque d'eau.
Exactement. Donc, les agriculteurs vont devoir utiliser des techniques d'irrigation économe, et peut-être que les cultures comme le maïs devront être transportées vers le nord, où il y aurait plus d'eau. Des forêts qui brûlent, ça va être aussi probablement dramatique, puisque évidemment on a déjà vu des images comme en Australie ou en Russie avec des brasiers qui pourraient menacer les villes. Il faut tenter d'éviter ça, évidemment. Un autre risque qui est majeur, c'est un risque nucléaire accru. Parce qu'à l'heure actuelle, il y a quand même beaucoup de pays à travers le monde où l'électricité est produite par les centrales nucléaires. Et pour maîtriser la réaction très énergique qui a lieu dans le cœur du réacteur, il faut le refroidir en pompant l'eau d'énormes quantités d'eau dans les fleuves. Le problème, c'est qu'il va y avoir une diminution des cours d'eau, davantage d'évaporation, et dans certaines régions, il n'y aura peut-être pas assez d'eau pour refroidir les réacteurs nucléaires. Vous imaginez les catastrophes, ça peut se produire comme à Fukushima et en plusieurs endroits du monde. Il est donc essentiel de réduire notre dépendance au nucléaire. Je me sens pas mal grand-mère avec tous les conseils que je vous donne, hein, et développer des énergivêtres. En ce qui concerne les stations de ski, elles risquent de devenir fantômes. Et ça peut être une catastrophe économique, puisque les skieurs qui louent des appartements, des équipements, des remontées, c'est l'or blanc dont il faudra se passer, probablement.
Mais on aura trouvé une façon de skier sur le gazon.
Ah, mais ça existe déjà, j'en ai déjà
exactement,
fait.
Exactement, tout à fait, j'ai vu.
Alors, ouais. Ceci, c'était
donc
un article...
Donc, c'est ça,
exactement. C'était un article, donc, de Science et Vie du mois de décembre, et qui était écrit par... Karine Perrière.
Lundi, je me suis levé, faisait tellement pas beau. Que même les pigeons fonçaient des poteaux. Mardi, je me suis levé, faisait tellement chaud. Le feu a pogné dans l'usine de poncho. Mercredi, je me suis levé, faisait tellement fret. Que même en avoir mille, c'était pas assez couverte. Jeudi, je me suis levé, c'était tellement humide. Tout le monde a frisé, permanent de splendide. Vendredi, je me suis levé. Voyez plein de marche en se ramassant sur le cœur. Il fait jamais assez beau pour sortir dehors. Puis quand ça a du bon sang, tout le monde chiale encore. Fait que 20 semaines, on prend un break. Puis on jase à sport. Suivre au radar. Jeudi, je vais me lever. sais, tu vas te rendre au centre d'achat. Vendredi, je vais me lever, ça a l'air qu'il annonce beau. Mais ça a le temps de changer, j'aime mieux rien planifier. Fais jamais assez beau pour sortir dehors. Mais quand ça a du bon sens, ben tout le monde chiale encore. Fait qu'en fin de semaine, on prend un break, puis on jase la chambre.
Merci beaucoup, Jean-Sébastien. Vraiment, vous ne pouviez pas trouver mieux que ça sur la météo. Et c'est un groupe qui s'appelle Trois gars sur le sofa.
Hein,
vous m'avez vu? Vous avez entendu?
Bravo, quel bel accent!
Trois gars
sur le sofa, ce qui nous amène à Néandertal.
Oh oh. Et ils ne sont pas sur le sofa, ceux-là. Hein?
Pas vraiment. Donc, c'est de Pauline Gravel dans Sciences et technologies du 15 janvier 2015. Il y a une nouvelle découverte archéologique qui a été réalisée en France par une équipe franco-québécoise qui nous suggère que l'homme de Néandertal possédait des compétences techniques comparables à celles de l'Homo sapiens.
Ah oui?
Une nouvelle fois encore, l'homme de Néandertal prend du galon et il rivalise avec notre espèce qui est dotée prétendument d'une intelligence supérieure.
Prétentieusement, je croyais que vous alliez dire.
Ben, peut-être prétentieusement aussi. Ah, la trouvaille, c'est un outil en os de renne. Ça a l'air insignifiant comme ça. Hein? Mmh. Mais c'est un outil qui aurait servi à des tâches aussi diverses que le raclage des carcasses, des peaux, si
ben
vous
ouais,
voulez,
ben ouais.
et le réaffûtage du fil des outils de pierre.
Pour
aiguiser des outils. Ben oui, c'est une grande découverte. On estime qu'il date d'environ 55 000 ans, wow. Une époque où Homo sapiens n'était pas encore présent en Europe, bien qu'il existait déjà en Afrique. Et on nous dit aussi au Levant. Le Levant, c'est Israël, Liban...
L'Orient,
d'une certaine façon. Alors, cet outil aurait été façonné par un homme de Néandertal, comme le confirment les quelques 20 fragments de restes humains, dont des dents, une mandibule, qui aurait appartenu à cette espèce qui a été exhumée dans la même couche que l'outil en question. Donc, on a trouvé des restes humains et cet outil-là. Et c'est sur le site de la grotte du Bison, en Bourgogne. La découverte, comme ça, est loin d'être banale, vous savez. Car jusqu'au début des années 2000, les préhistoriens interprétaient l'utilisation du matériau osseux pour la fabrication d'outils comme une modernité spécifique à Homo sapiens. Alors, ça peut nous paraître insignifiant aujourd'hui, mais ça a des conséquences importantes.
Ben oui, pour eux, à l'époque, oui.
Oui. Mais depuis le tournant du siècle, des archéologues ont accumulé des indices attestant que les Néandertaliens créaient des outils avec les os des animaux qu'ils chassaient. À titre d'exemple, une professeure de l'Université de Montréal a publié en 2006 un article scientifique dans lequel elle décrivait comment le morceau d'os qu'elle avait trouvé sur un site néandertalien en Crimée avait été travaillé pour servir de ciseau.
En plus.
Ciseaux avec un C, là. Ciseaux,
oui,
non
oui.
Pas un ciseau à découper, là. La découverte réalisée en juin 2014 est une première, car il s'agit là d'un outil à usage multiple. C'est la première fois qu'on réalisait
quand
ça.
Quand vous parlez de ciseaux, vous voulez dire les ciseaux comme ceux qu'on a maintenant?
Non. Ciseaux pour faire des éclats.
OK, d'accord. Okay.
Alors, d'une part, l'os, en l'occurrence, c'était un fémur. Le fémur gauche de renne. C'est incroyable qu'on soit capable d'identifier une chose semblable. Hein? Et ça présente des stigmates d'arrachement qui sont caractéristiques d'une utilisation de l'outil pour affûter le tranchant des outils en pierre taillée. Ah, ces stigmates donnent l'impression que l'outil a été poinçonné. Et conséquence de l'aiguisage, de l'affûtage d'un outil de pierre. C'est tout à fait nouveau. D'autre part, l'outil possède un poli important et des négatifs d'enlèvement sur son tranchant qui suggèrent qu'il a dû être utilisé pour utiliser des peaux et pour racler des matières graisseuses. Mm-hmm. Donc, pour réussir à uniformiser les peaux, si vous voulez. Mais le Néandertalien façonnait le tranchant de son racloir en os par percussion, comme oui. on le disait, avec un ciseau, laquelle enlevait des éclats ayant des formes particulières. Le poli, quant à lui, est apparu lors de l'utilisation de l'outil. Actuellement, la fonction de racloir qu'on vient de mentionner est hypothétique et devra être confirmée par des études expérimentales. L'archéologie expérimentale consiste dans un premier temps à reproduire les gestes que l'homme préhistorique a dû faire pour fabriquer un outil à partir d'un os d'animal. Donc, on essaie de reproduire exactement les gestes qu'il posait. Dans un deuxième temps, on analyse les traces qui ont été produites sur l'outil par ces gestes. Alors, si on trouve une concordance entre les traces produites expérimentalement et celles qu'on observe sur des spécimens archéologiques, on peut proposer avec beaucoup d'assurance la fonction de l'outil. Chose certaine, la découverte de cet outil façonné dans un matériau autre que la pierre montre que l'homme de Néandertal était capable lui aussi d'innovation plutôt technique. La supposée supériorité technique d'Homo sapiens sur Néandertal, qu'on a longtemps prétendu, ne tient plus avec cette découverte. Le Néandertal possédait des rituels funéraires, une certaine culture symbolique, comme en témoigne leur utilisation de plumes d'oiseaux, par exemple, de dents d'animaux et de coquillages comme parure. Cette découverte bat une fois de plus en brèche l'hypothèse d'une évolution linéaire du comportement humain. On sait maintenant, et ça c'est important, on sait maintenant que l'évolution du comportement s'est effectuée de façon plutôt anarchique, buissonnante, en fonction des contextes historiques. Et en d'autres termes, il y aurait eu le développement des mêmes innovations ou des mêmes compétences en parallèle chez différentes espèces qui ont coexisté à différents endroits, comme notamment l'homme de Néandertal et l'Homo sapiens. Alors, en gros, c'était une découverte qui nous apprend que Néandertal, c'était pas nécessairement ce qu'on avait comme opinion jusqu'à maintenant. Alors, c'est tiré de Sciences et technologies par Pauline Gravel de 15 janvier 2015. Petit complément d'information sur Lagos dont je vous parlais tout à l'heure. Les promoteurs d'un endroit qui s'appelle Éco-Atlantique, ils ont lancé un projet immobilier d'une ampleur jamais vue en Afrique. C'est une île artificielle de 10 km² qui est littéralement en train de pousser dans la lagune. Qui va agir à titre de mur contre l'érosion de la côte, mais qui promet surtout de devenir le cœur financier de l'Afrique de l'Ouest. En fait, on reproduit un peu ce qui était à Dubaï, ça vous dit probablement quelque chose, les îles en palmier, et on l'appelle la Dubaï nigériane. C'est modelé de gratte-ciel aux allures futuristes, et on va y trouver des institutions financières, mais aussi des complexes touristiques et résidentiels de luxe. Donc, quelque chose de quand même considérable.
L'enfer sur Terre, ça existe. Hein? Depuis 40 ans, le désert de Karakoum au Turkménistan est en feu à cause d'un forage qui a provoqué des fuites dans les poches de méthane juste sous la surface. Les géologues soviétiques ont commencé à forer en 1971 et personne n'aurait pu deviner qu'au final, ils allaient percer des couches souterraines qui contenaient du gaz. En forant, ils sont tombés dans une poche souterraine, le matériel de forage a disparu, et comme ils craignaient que le cratère n'émette des gaz empoisonnés, ils ont décidé d'y mettre feu. Et les scientifiques soviétiques espéraient ainsi brûler le gaz jusqu'à son extinction, mais les flammes ne sont pas éteintes depuis maintenant 40 ans.
Petite note sur Lagos. Le jeu de Monopoly que vous connaissez bien rend des contrastes de Lagos dans sa première édition spéciale consacrée à une ville africaine. La propriété la plus chère, vous vous en doutez, se situe sur le... Ça s'appelle Banana Island, l'île dont je viens de vous parler. C'est une île artificielle. Et la plus abordable est Makoko. C'est un bidonville flottant surnommé la Petite Venise de Lagos. Donc, Lagos entre dans l'histoire par le biais du Monopoly.
Eh bien, merci beaucoup, Michel. Nous avons donc parlé de différentes choses en allant du Néandertal à la D2050. Merci beaucoup, Jean-Sébastien, aussi, pour le choix extrêmement judicieux des musiques. Contactez-nous sur le site canalm.org pour nous donner de vos nouvelles, vos commentaires. Reprise de cette émission de 13h à 13h et 21h. À la semaine prochaine.
Au revoir.
Au revoir, Michel. Au revoir, Jean-Sébastien.